vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 39, la dernière histoire de la vieille dame du petit magasin. On n'a jamais su son nom. Il n'a jamais rien dit. Peut-être ne voulait-il pas qu'on le sache. Chers amis, bonjour. Vous l'avez bien connu, peut-être que son surnom, ce n'était même pas le sien, mais celui de son prédécesseur. Il disait parfois « Je suis personne », c'était pour rire. Un peu comme si vous disiez « Je vais chez Yvonne », alors qu'en fait, il s'appelle Cédric. Est-ce qu'en 2023, on peut encore être anonyme, être quelqu'un qui n'existe pas? Parfois, vous croisez des gens qui vous intriguent ou mieux, que vous trouvez fascinants. Et vous avez cette fugace impression que cette dame ou ce monsieur va s'adresser à vous en vous disant quelque chose de tout à fait évident. Une grande expérience, une longue vie aventureuse, l'élégance de la modestie lui fera dire une platitude, une petite phrase banale, comme une contrainte dans une vie extraordinaire. « Oui, je fais de la musique. » Alors qu'il a été le chef de la Philharmonie de Berlin pendant 10 ans et que ses opéras ont été créés à la Scala de Milan. « Oh oui, je fais de la musique. » Alors, si vous aimez la musique, vous pourrez dire « Je l'ai bien connu. » Là, en fait, c'est une rencontre extraordinaire. Et si cette personne a été assise à côté de vous, par hasard, au troisième rang d'un concert du Festival Musica, la personne reste quelqu'un d'extraordinaire pour vous. Mais bon, ça arrive. C'est un chouette de hasard. Voilà, vous avez été assis à côté du chef de la Philharmonie de Berlin. Mais imaginez qu'il pleuve. Vous êtes sur une petite route à 9h du soir, à la sortie de la forêt de Haguenau. Vous avez un pneu crevé, vous avez vidé le coffre à la lumière de votre téléphone portable et vous avez trouvé le cric, mais impossible de débloquer les boulons. C'est vraiment la poisse, la batterie de votre téléphone est presque à plat et la batterie est en danger et vous cherchez le téléphone d'un garagiste dans tous les villages des environs. Une voiture s'arrête. Sympa. Le conducteur s'inquiète de ce que vous faites là. Ah, il n'est pas tout seul. Il y a une dame assise à côté de lui, devant de la voiture. Le monsieur dit « Attendez, j'ai une barre qui va pouvoir faire pression sur la clé en croix pour débloquer le boulon. » Il met une paire de gants sortis de son coffre et il vous dépanne. Mais vraiment, c'est super sympa. Alors, vous usez de tout votre vocabulaire de gratitude, il cesse même de pleuvoir, mais comment vous remercier? C'est bien, heureux de vous avoir rendu service, dit le monsieur. Et ce monsieur, c'est le chef d'orchestre de Berlin et de Milan. Mais pour vous, ce monsieur n'est personne. On ne sait jamais qui sont les gens que l'on rencontre, ces gens ordinaires. Comme il remonte dans sa voiture, vous le rattrapez et vous lui offrez la bouteille de crémant du supermarché que vous aviez achetée. Et là, elle traînait sur le siège arrière parce que ce soir, vous étiez invité à dîner dans un village du coin et vous arriverez les mains vides chez vos amis. « Ah ben, merci beaucoup. J'accepte, dit le monsieur inconnu en rangeant son coffre. D'ailleurs, ce n'est pas sa voiture, mais celle d'un ami. Il lui expliquera pourquoi il a foutu le bazar dans les affaires du coffre. Il repart, il a du cambouis sur ses bras de chemise, et la dame fait un petit geste, un signe de la main, en tenant la bouteille tiède de l'autre, elle qui adore le champagne misélimé, frappé. Des gens ordinaires, c'est tellement de gens. Ce sont tous les autres. Ce qui ne serait pas ordinaire, c'est de rencontrer quelqu'un qui dise « Ah, je suis le dernier !» Alors, pas le dernier des hommes, Emil Jannings, dans le film de Murnau. Non, le dernier, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus d'autres. C'est fini, c'est terminé, comme par exemple cette émission. Vous l'avez bien connue, oui, et je profite de la période des vacances pour changer aujourd'hui. C'est la dernière. Mais cela va continuer, mais autrement, hein, à la rentrée. Le plaisir d'évoluer. Pendant juillet et août, chaque jour à 11h30, la rediffusion de tous les épisodes. Et puis à la rentrée, une exploration un peu littéraire, un peu décalée, un peu insolente, des grands romans et des petits livres alsatiques que vous avez bien connus. Alors pour les premiers épisodes, nous étions 4 ou 5 amis ou inconnus autour du micro pour évoquer le souvenir d'une personne rencontrée par hasard et dont on faisait semblant de rechercher le nom, prétexte à de nombreuses digressions. Ensuite, j'ai rédigé des histoires d'une petite demi-heure pour raconter une rencontre avec quelqu'un que vous avez bien connu. L'émission n'a pas changé de nom. Par exemple, cette dame de 93 ans qui pique la voiture de la directrice de l'EHPAD pour aller faire un tour en ville. Ou alors ce jeune homme qui se retrouve un bébé sur les bras pendant que le papa ramasse toutes ses affaires tombées sur le trottoir. Ou bien cette journaliste qui a fait 10 fois le tour du monde. Cela fait 40 ans qu'elle est partie, sans donner de nouvelles. Elle rencontre une gentille dame au marché. Elle papote et soudain, la journaliste, elle s'enfuit. La dame qui ne l'a pas reconnue, c'est sa maman. Des hommes ordinaires, c'est le célèbre livre de Christophe Browning qui raconte comment de bons maris, de bons pères de famille bedonnants qui cherchent du travail et qui acceptent sans trop réfléchir de prendre un fusil et un pistolet et de se soumettre à une hiérarchie. Comment ces hommes ordinaires comme vous et moi vont former le 101e bataillon de réserve de la police allemande. Ils vont entrer dans le village de Rzeszów en Pologne, arrêter 1800 juifs, en sélectionner 300 pour le travail et abattre les autres à bout portant. C'est en 1943. Et ces hommes ordinaires vont continuer et faire en 16 mois 83 000 victimes. Ces hommes ordinaires étaient 500. Très peu ont exprimé des remords. Et après la guerre, l'auteur américain du livre en a retrouvé plus de 200 pour leur parler. La plupart sont revenus à l'anonymat par prudence, par survie, mais aussi par absence de vengeance. Se promener dans une foule, c'est toujours jouer avec le hasard. On rencontre ce vieil ami que l'on n'a pas vu depuis longtemps et dont on ne se souvient plus du nom. Et pourtant, vous l'avez bien connu, petit prétexte à quelques efforts d'invention pour cette émission de radio. Ce que nous avons aimé, tous les participants qui prenaient des noms tout à fait farfelus, c'était de partir dans tous les sens, de laisser des portes ouvertes, de raconter selon les digressions le plaisir des jeux de mots foireux, la provocation pour tout ce qui concerne la bonne éducation, le blasphème et la religion, les embouteillages avenue des Vosges à Strasbourg et la meilleure tarte au fromage de toute l'Alsace à la boulangerie rue Gaillère. Et bien entendu, répéter à chaque fois que l'on peut vivre sans avoir lu Proust, mais que l'on vit mieux lorsque l'on a eu la persévérance de s'y plonger en racontant, et c'est vrai, qu'à ce magique moment-là, on lit toute la nuit jusqu'à 4 heures du matin. Parler de tout le monde en sautant du coq à l'âne, en mélangeant la pâtisserie parfumée à la vanille à l'évocation des horreurs de la Shoah, c'est passer sans transition d'un sujet à un autre, avec un esprit un peu coquin, puisque sauter veut dire saillir, couvrir la femelle, et que l'âne en question a pour étymologie le mot latin « anas », qui est la femelle du canard, à ne pas confondre avec le mot latin « asinus », qui est celui de l'âne, avec ses oreilles et son accent circonflexe. Hi-han, hi-han. Donc, passer du coq à l'âne, comme dans cette émission, c'est en fait le coq dans une grande excitation sexuelle en train de copuler une canne, la femelle du canard. Alors, cela nous intrigue et nous n'émotons aucun jugement moral que la Bible pourrait réprouver. Alors, raconter ces histoires à la radio, c'est une ambition qui mérite d'être saluée, car elle nécessite une grande liberté. Merci Radio Judaïka de permettre de ne pas se conformer aux banalités, à la platitude de la promotion d'un invité extraordinaire venu présenter son livre, son association, son combat, son devoir, son enthousiasme, sa modeste générosité pour changer le monde, son catalogue de belles choses. Avoir la liberté de faire une émission sur les trous que l'on a dans ses chaussettes en citant Georges Perec, Charlie Hebdo et la cathédrale de Strasbourg, cela amuse celui qui parle, mais aussi, on nous l'a dit, ceux qui écoutent. Bravo les auditeurs, les liens de podcast sur le site internet et les articles nouveaux sur Facebook racontent ce modeste, toujours et génial succès. Voilà petit hommage dans cette dernière émission de la saison. Merci Radio Judaïka. Raconter ces histoires n'est jamais innocent. On parle de la solitude des gens. On parle de cette indépendance d'esprit pour se débarrasser du « qu'en dira-t-on ». On parle de cette jubilation à briser le conformisme, cette maladie dans la société, dans les familles qui, sous prétexte de respect des traditions, imposent des règles dont les interprétations varient selon ceux qui imposent leur soi-disant éthique. Un prof que nous avions invité avait dit, au détour d'une cascade de mots sur l'éducation, que la seule recommandation qu'il faisait à ses élèves pour le bac, c'était « soyez audacieux ». L'audace dans la vie de tous les jours, dans la société, dans la famille, dans ses relations amoureuses, dans son boulot, ou mieux, sa passion, l'audace quand on est artiste, l'audace quand on veut changer le monde. L'audace, c'est pas la même chose que l'espoir. L'espoir d'un monde meilleur. Un cow-boy dans un western réplique le pistolet à la main alors qu'il se sent attaqué. L'espoir est une chose dangereuse. Il trompe votre esprit en montrant des choses qui ne se réaliseront jamais. Il n'y a aucune place pour les miracles dans ce monde. Je n'ai jamais vu quelqu'un en souhaiter un. J'ai gardé deux histoires pour conclure cette recherche de personnes que l'on a bien connues, pour qui l'on a tous de suite beaucoup de sympathie et qui cependant n'existent pas. Nous sommes au début des années 1970, juste après mai 68, mais aussi dans cette période où les récits de la Seconde Guerre mondiale par les parents nourrissent une aversion de la guerre, et aussi cette période où les adolescents qui se tournent vers la culture américaine, Woodstock, etc., découvrent qu'ils pourraient avoir l'âge de partir au Vietnam. Ne pas faire son service militaire n'est pas considéré comme une lâcheté, mais comme un acte politique, un engagement fort dans la société, et aussi comme 18 mois ou 2 ans de gagner. Alors, les militaires connaissent tous les trucs des appelés pour échapper au service militaire. On met du jaune d'œuf et de l'albumine dans les urines, etc. Non, mais les certificats de maladie bidons, etc. C'est un jeu de chat et de souris avec l'appel, non pas sous les drapeaux, ça c'est ensuite, mais l'appel au piston pour y échapper ou trouver une planque. Un jeune homme a été plutôt malin, un truc tout simple, et ça a marché. Souvenez-vous que dans les années 1970, il n'y avait pas d'ordinateur, rien pour croiser des fichiers et vérifier les données d'une personne. Eh bien, ce garçon a tout simplement récupéré un certificat de décès dans la mairie où il est né. Un petit coup de tampon avec la secrétaire pour rigoler, et une fois rempli, le certificat de décès envoyé à la caserne à Commercy où l'on faisait ce que l'on appelait les 3 jours, eh bien, ça a marché. Alors, c'était il y a 50 ans et depuis, aucune nouvelle de la caserne. Pas mal comme histoire pour illustrer cet épisode de « Mon nom est personne » et « L'inconnu du Nord Express ». L'autre histoire, c'est celle d'Amélie. Elle est née en 1934. Elle avait 4 ans quand sa maman est décédée. et elle a grandi dans un petit village, c'est sa grand-mère qui l'a élevée. L'école est pour elle un lieu merveilleux. Mais un jour, l'instituteur prend l'air grave et lui apprend la mort de sa grand-mère. Elle s'enfuit dans la campagne. Le directeur de l'école la rattrape et lui dit qu'il faudra aller à l'orphelinat. Elle y sera bien, mais vous verrez, c'est très bien l'orphelinat. Elle hurle, elle refuse. Le maître d'école lui dit « Bien, tu peux rester jusqu'à la fin de l'année scolaire. » Alors Amélie dit « Oui, mais je veux passer mon certificat d'études. » À l'époque, ce n'était que les élèves des parents les plus riches qui passaient l'examen. Il fallait payer pour cela et surtout aller à la ville, à 12 kilomètres, à Haguenau, pour passer l'épreuve. Et de toute façon, le certif servait surtout à entrer au collège, et le collège, c'était aussi pour les gens riches. Eh bien, Amélie a réussi son certificat d'études. Le matin, elle avait fait les 12 kilomètres dans une charrette à foin. Elle était fière de son diplôme avec un ruban rouge. « Plus question d'orphelinat », pense-t-elle. Et l'instituteur, qui est fier lui aussi de sa bonne élève, veut lui faire continuer l'école. Mais la vieille tante qui a la garde d'Amélie ne veut pas de cela. À 11 ans, elle doit commencer à travailler. Et si elle va à l'école, ses cousines seront jalouses. Alors, pas question. On va terminer avec le happy end, qui mêle le hasard, l'audace et un peu d'affabulation. L'instituteur vient d'être nommé dans une ville près de Saverne et il a besoin de quelqu'un, une bonne, pour s'occuper de ses enfants. Il emmènera donc Amélie dans ses bagages et le soir, quand les bébés dormiront, il lui donnera quelques cours, des leçons à la maison. Voilà, c'est tout. Maintenant, je pourrais vous raconter qu'Amélie a réussi son bac, qu'elle a été prof helléniste à l'université, ou bien qu'elle a fait une carrière dans la politique, ou bien qu'elle a été ministre, ou bien qu'Amélie est devenue un grand écrivain comme Annie Ernaux et qu'elle s'est toujours souvenue de son épreuve du baccalauréat. Non, Amélie est une dame tout ordinaire, aimable et coquette, et qui fait attention à ses sous. Vous pouvez la croiser, sans le savoir, dans les rayons du Carrefour Express. Elle sourit à tous les enfants qui se promènent dans les allées du magasin. Et si vous la revoyez le lendemain dans son petit tailleur gris foncé et que vous faites une politesse pour la laisser passer, « Allez-y, madame, s'il vous plaît !» et qu'elle vous dit « Oh, merci, monsieur, vous êtes bien aimable !» Vous pourrez alors, en pensant peut-être à cette émission de radio, ou simplement en lui rendant son sourire et en lui disant « Ah oui, peut-être, à demain », vous pourrez alors dire de cette dame inconnue « Je l'ai bien connue ».C'était l'épisode numéro 39 de l'émission « Vous l'avez bien connue ». La dernière histoire de la vieille dame du petit magasin. Vous l'avez bien connue, une émission que vous retrouverez en rediffusion tous les jours à 11h30 sur Radio Judaïka. Et à la rentrée, la suite de Vous l'avez bien connue avec une exploration un peu littéraire, un peu décalée, un peu insolente des grands romans et des petits livres alsatiques, des livres que vous avez bien connus. Aujourd'hui à la technique, Thomas Marinelli et mon nom, parce que j'aimerais bien tous vous connaître, c'est Ambroise Perrin.